troisième journée spéciale de la méthode scientifique, puisque tout au long de la semaine, nous diffusons les tables rondes enregistrées samedi dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, dans le cadre de l'opération L'année vue par les sciences. Et la table ronde du jour a pour thème « Le numérique fait-il de nous des numéros ?» Nous allons parler au cours de cette heure du numérique, qui est un enjeu de société important, un enjeu politique, un enjeu de démocratie, comme vous allez le voir. Et si, finalement, le nom du prophète était Patrick McGowan ? Alors, Patrick McGowan, hein, héros de la série Le Prisonnier, ça rappelle forcément quelques souvenirs aux plus de 20 ans. Pour les autres, il faudra aller voir sur YouTube. Je m'explique. Regardez le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. L'omniprésence du numérique dans nos vies. Un village global où tout le monde, tout notre entourage numérique, nos amis, donc, se ressemblent étrangement. Tout le monde s'entend bien dans une sorte de concorde générale, un peu étrange parce que tout le monde, finalement, a à peu près le même avis. Par ailleurs, tout ce que nous faisons est observé, scruté, disséqué. Toutes nos petites habitudes, tous les endroits, qu'ils soient réels ou virtuels, que nous visitons, le moindre de nos choix, la décision la plus insignifiante, comme par exemple juste passer la souris un tout petit instant sur cette publicité pour une marque de vêtements et finir par renoncer à cliquer, eh bien tout est enregistré. De telle sorte que tout ce qui va nous être proposé va être subtilement contraint. Orienté. On ne va pas nous forcer la main, hein, mais on va nous conduire en nous poussant, sans que nous ne nous en rendions vraiment compte, dans le bon sens, vers la bonne porte, dans la bonne direction. Dans ce village, donc, tout le monde est à peu près heureux, ou semble l'être en tout cas. Il devient quasi impossible de se déconnecter, de quitter le village. Alors, il n'y a pas encore de grosses boules blanches qui sortent de l'océan pour nous étouffer, et pourtant, le sentiment d'étouffement n'est jamais très loin. Il n'y a pas de numéro 1. En revanche, il y a toujours de nouveaux numéros 2. Vous voyez maintenant pourquoi Patrick McGowan, le prisonnier, avait quelque chose de prophétique lorsqu'il hurlait dans ce monde qui avait pourtant toutes les allures du paradis, de la perfection. « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. » Sommes-nous des hommes libres dans ce monde numérique gouverné par les algorithmes ou avons-nous abdiqué cette liberté pour devenir volontairement des numéros ? Le plus grand péril pour la démocratie vient-il des poussées populistes ? Qui gangrène la société occidentale, ou de ce nouveau totalitarisme numérique auquel nous avons déjà collectivement consenti. C'est ce scénario discrètement anxiogène dont nous allons débattre aujourd'hui avec Antoinette Rouvroy. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Fonds de la recherche scientifique, le FNRS, qui est rattaché au Centre de recherche information, droit et société de l'Université de Namur. Vous arrivez tout juste de Belgique. Bienvenue. Benjamin Bayard, que les utilisateurs de 4chan connaissent sous le pseudonyme de Sam le Pirate, en lien à la cravate, mais qui est surtout président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif et cofondateur de la Quadrature du Net. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Gabriel Ganassia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6 et spécialiste d'intelligence artificielle et président du comité d'éthique du CNRS. Alors peut-être pour commencer, le point de départ de ce présent dystopique que je décrivais à l'instant, puisque ce serait donc là que se situerait la source du mal finalement, qu'est-ce que c'est exactement que cet horrible algorithme, Benjamin Bayard ?
Alors, en vrai, un algorithme, c'est quelque chose de simple. Un algorithme, c'est une recette, c'est un procédé de calcul. Comment extraire une racine carrée d'un nombre ? Ça, c'est un algorithme. Comment faire une addition et comment propager la retenue quand on fait une addition ? C'est un algorithme. Donc, ça, c'est pas très dangereux, c'est pas beaucoup plus dangereux qu'une recette de cuisine. Ce qu'on nous vend aujourd'hui sous le nom d'algorithme, c'est tout à fait autre chose. C'est le fait de faire des analyses de grandes masses de données, et en général de grandes masses de données que vous avez produites. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et l'inquiétude ne vient pas de l'algorithme lui-même, qui est une méthode de calcul, c'est pas dangereux une méthode de calcul. Ça vient de la nature des données qu'on exploite et de l'exploitation qu'on veut en faire. C'est ça, c'est là qu'est la difficulté. Et en fait, quand on essaye de nous encombrer la tête avec plein de mots très compliqués comme big data,
métadonnées en français,
modèle algorithmique, intelligence artificielle, etc., on nous encombre la pensée. En fait, la vraie question derrière est toujours, avez-vous accepté une intrusion dans votre vie privée, et cette intrusion vous fait-elle du mal? Ça, ce sont des vraies questions qui sont en fait pas du tout des questions d'informatique. Et est-ce que les algorithmes sont méchants? Non, j'en ai jamais croisé qui soient méchants. En revanche, des gens qui font du mal en utilisant des algorithmes, ça j'en croise régulièrement sur Internet. Et la vraie question pour moi est là. Elle est sur qui, pourquoi et à quel moment ça devient toxique.
Antoinette Rouvroy, ces algorithmes dont nous parlons aujourd'hui se sont généralisés avec la démocratisation et on pourrait presque dire l'invasion du numérique dans nos vies. À partir de quel moment cet algorithme est devenu nécessaire au fonctionnement de ce monde numérique?
Nous avons franchi, avec ce qu'on appelle les big data ou les données massives, un seuil de quantité, de complexité et de rapidité d'accumulation de données. On ne parle même plus nécessairement d'accumulation, mais bien réellement de prolifération de données de toutes sortes. Des données qui effectivement sont produites par vous et moi, mais aussi des métadonnées, c'est-à-dire des données qui sont le plus souvent produites par des machines elles-mêmes et qui sont des données à propos des données et qui disent beaucoup de choses à propos des machines et donc à propos de leurs utilisateurs. Les données produites par les administrations publiques, les données produites par les caméras, recueillies par les caméras de vidéosurveillance, bref, une sorte de complexité de données, une multiplicité de capteurs de données de toutes sortes. Alors, ces masses gigantesques de données, elles ont franchit donc un seuil à partir duquel l'esprit humain devient incapable de transformer ces données en informations utilisables. Et donc nous avons été obligés en quelque sorte, et c'est un aveu de faiblesse de l'esprit humain en quelque sorte aussi, hein, nous avons été obligés donc à la fois d'accélérer et d'automatiser la transformation des données en informations opérationnelles. Donc c'est effectivement une forme de nécessité, nécessité qui induit aussi des transformations dans la rationalité. C'est-à-dire qu'on abandonne les ambitions de la rationalité moderne humaine qui liait les phénomènes à leur cause pour éventuellement prédire leur survenance. On glisse vers une rationalité qu'on pourrait dire un peu avec un gros mot post-moderne, dans laquelle on ne se soucie plus du tout des causes. On glisse vers une rationalité purement statistique, purement inductive, qui voit surgir des corrélations, qui essaye d'observer les corrélations qui surgissent au sein des quantités massives de données. Ça veut dire qu'on ne produit plus l'information, qu'on ne produit plus le savoir. Le savoir n'a plus à être produit, il est toujours déjà là, immanent, en attente d'être découvert par la grâce des algorithmes, la grâce automatique des algorithmes. Et donc, on attend que ça surgisse de soi-même des masses de données. C'est une transformation radicale dans les modes de production de ce qu'on appelle le savoir ou plus simplement le réel.
Il y a Jean-Gabriel Ganassia, du coup nous sommes condamnés à cette démocratie des algorithmes. Aujourd'hui nous ne pouvons plus faire sans, ils se sont imposés à nous parce que nous n'avons plus le choix de pouvoir traiter cette quantité astronomique de données.
Alors, je pense qu'il faut revenir un tout petit peu sur la notion d'algorithme. On vous a dit, effectivement, un algorithme, c'est une méthode de calcul. Alors, peut-être, rappelons un peu l'étymologie. Je pense que tout le monde le sait, mais je pense que c'est important de se souvenir. D'abord, algorithme, ça s'écrit avec un I. Je le dis parce que beaucoup de mes étudiants, quelquefois, mettent un Y. Même si les algorithmes rythment nos vies, un peu comme pouvait le dire Antoine Trouvrois aujourd'hui. Hein. Et le terme algorithme vient du nom d'un mathématicien persan, qui a écrit en arabe, qui a vécu au 9e siècle, hein, enfin il est né à la fin du 8e siècle, et ça a donné, entre autres, algèbre, etc. Hein, ce sont des méthodes de calcul. Alors ça peut être des choses très simples, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être l'algorithme d'Euclide, ça peut être des choses un peu plus compliquées. Alors pourquoi ces algorithmes jouent un rôle aussi important dans nos vies aujourd'hui? C'est parce que nous avons des machines qui sont capables, effectivement, hein, de à la fois traiter des masses de données, mais avoir énormément d'activités dans nos vies. Hein. Un pilote automatique d'un avion, hein, c'est un algorithme. Hein. Bientôt, nos voitures elles-mêmes hein, seront gouvernées par des algorithmes. Alors, la question, c'est quelle est l'interférence qu'il peut y avoir entre ces algorithmes et notre démocratie? Alors, je crois que c'est une question très ancienne. En réalité, quand on parle d'algorithmes, peut-être qu'il faudrait préciser un tout petit peu les choses. Ce dont on parle, ce sont des algorithmes prédictifs. C'est-à-dire des algorithmes qui vont permettre d'anticiper le futur et on va gouverner à partir de cela. Alors, c'est une idée très ancienne. Il faut savoir que dans l'Antiquité, on anticipait le futur essentiellement avec des oracles, des présages.
Et à la pitié de Delphes.
Voilà, c'est ça. À partir des temps modernes, hein, à partir en particulier Machiavel, hein, l'Italie, hein, les premiers théoriciens politiques, hein, se sont dit, il ne faut pas seulement avoir des présages, il faut essayer de faire des pronostics. C'est-à-dire être capable d'anticiper tous les futurs possibles et de choisir de la façon la plus rationnelle entre ces futurs possibles. C'est donc un calcul. Mais ce calcul, bien sûr, il se faisait avec une connaissance des causes. Alors aujourd'hui, il y a deux choses qui interviennent. C'est d'une part le fait qu'il y a une complexité. C'est ce qu'a dit Antoine Trouvoir. Alors peut-être pour donner une idée hein, des masses d'informations, comme je travaille pas mal, moi je suis professeur à l'UPMC, mais on travaille avec des équipes de littérature de Paris-Sorbonne. Donc pour expliquer la taille des données, j'ai pris un horizon qui est celui des littéraires, qui est la très grande bibliothèque de France. Il y a 14 millions d'exemplaires au catalogue des livres et imprimés. Si on considère 1 million de signes par volume, alors pour les gens qui écrivent, c'est beaucoup 1 million de signes. Hein, donc une limite maximale, c'est ce que ça fait 14 millions fois millions, ça fait 14 téraoctets. Alors un téraoctet, bon, c'est énorme, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, ça se stocke sur un petit disque. Donc, on a une bibliothèque là-dessus. Hein. Mais alors, pour donner une idée des quantités qui sont produites aujourd'hui, Twitter produit par jour 7 téraoctets, une demi-bibliothèque nationale de France, avec des petits messages de 140 signes. Hein. Donc, ça vous donne une idée de ces masses colossales d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? On utilise des algorithmes prédictifs qui vont établir des corrélations. Et on va utiliser ces corrélations pour faire de la prédiction. Et on va utiliser ces prédictions pour gouverner. Alors, ça n'est pas une fatalité, hein, mais c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, hein, en particulier hein, des compagnies d'assurance, par exemple, mmh. des hommes politiques qui peuvent essayer de prédire...
Pour des campagnes électorales, on y reviendra, mais...
Tout à fait,
tout à fait. Des algorithmes utilisés hein, pour ce anticiper les décisions des électeurs.
Et c'est cette question-là, bien sûr, qui nous semble tout à fait problématique. Et je crois qu'il faut insister sur cette différence entre causalité et corrélation. Mais ce ne sont pas les algorithmes, hein, ce sont les algorithmes prédictifs dans un certain usage particulier. Certains de ces usages, d'ailleurs, peuvent être très positifs. Hein, ce n'est pas pour les dénigrer systématiquement. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire que, bien sûr, ces corrélations sont faites en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. C'est-à-dire qu'on va décrire les données d'une certaine façon. Et bien sûr, ça n'est pas neutre. Et donc, on laisse entendre que ces algorithmes, parce qu'ils sont mathématiques, seraient des choses qui seraient totalement neutres, totalement objectives. Et en réalité, elles ne le sont pas.
Alors justement, je vais rebondir là-dessus et puis pour revenir sur ce que disait Benjamin Bayard tout à l'heure, Benjamin, vous disiez, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré d'algorithme méchant. Certes, Cathy O'Neill, qui est auteure du livre Armes de destruction mathématique, écrit « En réalité, tout est biaisé. Les algorithmes étant par essence des constructions humaines, les développeurs y implémentent leur réalité culturelle, leur histoire, leur éducation, le plus souvent de manière involontaire. » Ça veut dire que ces outils informatiques, mathématiques, sont malgré tout biaisés par des conceptions humaines. Ce ne sont pas neutres. Un algorithme n'est pas
neutre. Oui. Un algorithme n'est pas neutre, de même qu'un chercheur n'est pas neutre. Ça ne veut pas dire qu'il soit méchant. Le plus souvent, les gens qui travaillent sur ce genre de système ne cherchent pas à nuire. Hormis quelques politiciens, les gens cherchent rarement à nuire. En revanche, il y a systématiquement un biais. Il y a toujours un biais. Et qui est le préjugé du point de départ. Quand on fait une analyse statistique, on trouve beaucoup plus facilement le résultat auquel on s'attend qu'un résultat contraire. Et en général, le biais ne se voit pas dans la partie mathématique, mais il se voit un peu partout ailleurs. Il se voit dans la façon dont on collecte les données. Vous voulez faire des études d'opinion et donc vous posez des questions aux gens. Avant les questions qui vous intéressent, vous essayez de catégoriser les gens. Donc vous demandez savoir si c'est monsieur ou madame, l'âge, etc., etc. Et puis ensuite, vous analyserez les réponses en fonction de ces critères, sexe, âge, travail, etc. Et en fait, comme vous n'avez jamais prévu la case « autre », à part monsieur et madame, eh bien tout d'un coup, le résultat de vos statistiques est que « autre » n'existe pas. La médecine nous dit que ça existe, la biologie nous dit que ça existe, mais parce que dans la façon dont vous avez posé votre question, on ne pouvait pas sortir de la case, vous avez des montagnes de données qui disent que ça n'existe pas. Ça, c'est du pur biais cognitif. Et il y a ça dans tous les travaux scientifiques, tout le temps. Il y a tout le temps un biais cognitif où, en fait, la façon de poser la question induit une partie de la réponse. Et toutes ces analyses fonctionnent comme ça. Et à chaque fois qu'on analyse une montagne de données, la façon dont on a produit la montagne de données, la façon dont on les a conservées et la façon dont on les a analysées emporte toujours un biais au moins inconscient. Après, il y a aussi tous les biais conscients. C'est-à-dire quand la façon de traiter les données cherche à produire un résultat, typiquement les publicitaires sont pas des gens qui cherchent juste à comprendre le monde, ils cherchent à le manipuler. Ils vous expliqueront que c'est pas forcément méchant, mais c'est toujours là aussi biaisé. Donc oui, il y a dans les algorithmes toujours des biais, mais qui viennent pas de l'outil. La communication publicitaire, qui est absolument pas algorithmique, est biaisée. Toute la communication publique est biaisée. Le traitement de l'information, toujours biaisé. Le traitement de l'information subit au strict minimum le préjugé du journaliste. Et souvent d'autres. Mais au moins celui-là. Et bien, de la même manière, on ne peut pas produire un algorithme ou on ne peut pas produire les données qui sont collectées sans fonctionner avec un biais. Et même la façon d'émettre les données est biaisée.
Antoinette Rouvroy.
Oui, alors, bien entendu, les algorithmes sont biaisés. Il n'y a pas que les algorithmes qui soient biaisés. Les données elles-mêmes, effectivement, sont biaisées. Mais c'est toute notre réalité sociale qui est enregistrée sous forme de données, transcrite sous forme de données, qui est elle-même biaisée. Si on vit dans une société dans laquelle il y a des préjugés, il y a des discriminations, des inégalités, ces inégalités, ces préjugés vont être enregistrés passivement sous forme de données massives et donc naturalisées dans une certaine mesure et reproduites dans les, par exemple, dans les recommandations automatisées dans le contexte de l'emploi et de recommandations automatisées qui seraient fondées sur l'analyse de données massives recueillies dans le contexte de l'emploi, par exemple. Alors, les algorithmes, on a l'impression qu'en fait, les big data, les algorithmes, etc., c'est une objectivation absolue du monde, même, et que ce n'est même plus une représentation du monde, que c'est l'exhaustivité du monde, c'est le langage des choses mêmes, comme s'il n'y avait plus d'interprétation, etc. Ça, c'est quelque chose, vraiment, c'est une vision tout à fait fausse. Les algorithmes ont, comme nous, comme chacun de nous, un point de vue sur le monde. Simplement, ce point de vue, il est différent. Il dépend de la localisation des capteurs, il dépend du type de données qui est conservée, d'un travail très sophistiqué, de travail sur les données, de tri. En fait, on expurge les données de tout ce qui fait tout ce qui les rattache au contexte singulier des vies dont ils émanent. Alors, ce que ça donne, ça, comme résultat, eh bien, c'est une impression de très grande objectivité. Mais en fait, la cécité des algorithmes à l'égard à la fois de ce qui fait la singularité des vies et de ce qui inscrit ces vies dans des contextes collectifs. Les algorithmes sont tout à fait aveugles au fait qu'il s'agit que vous êtes une personne, une femme ou un homme ou une personne de telle origine ethnique. Non, il y a une sorte d'aveuglement qui paraît aller dans le sens d'une très grande objectivité. Et cette cécité des algorithmes à l'égard de ce qui fait votre singularité en tant que personne et votre inscription dans des collectifs, tout cela au profit de ce qui relie vos formes de vie tout à fait impersonnelles à des profils statistiques supra-individuels et prédictifs. Ce qui vous relie donc statistiquement à des profils impersonnels, mais prédictifs, c'est précisément ce qui donne aux algorithmes leur aura d'impartialité, d'objectivité, et qui, du même coup, les rend à la fois injustifiables, c'est-à-dire qu'on les dispense d'avoir à se justifier, et injusticiables aussi. Il est difficile de les appeler à la barre pour leur demander de se justifier. Donc ça, c'est l'enjeu de la contestabilité des décisions algorithmiques, eu égard à leur apparence d'objectivité et d'impartialité, est quelque chose de très sensible, me semble-t-il.
J'aimerais qu'on parle un peu effectivement de leurs applications concrètes. On a fait un tour d'horizon effectivement de ce que l'importance de l'algorithme peut amener comme biais dans notre rapport et dans le filtre qui nous sépare du monde réel. J'aimerais qu'on parle de manière un peu concrète de leurs applications les plus immédiates, c'est-à-dire de deux applications principalement, ce qu'on appelle des bulles de filtre et de quelque chose qui à mon avis est encore un peu plus retors, d'aucuns diraient pervers, le SEM pour Search Engine Manipulation Effect, l'effet de manipulation des moteurs de recherche. Aujourd'hui, notre rapport au numérique, Jean-Gabriel Ganassia, nous conduit, nous pousse, on l'a beaucoup entendu, particulièrement en période électorale, particulièrement récemment suite à des surprises électorales qui ont pu être pour les sondeurs, l'opinion publique, une grande partie des médias, la victoire du du Brexit et de Donald Trump. Aujourd'hui, nous nous enfermons volontairement dans des bulles de filtres du fait de ces algorithmes. Nous nous coupons petit à petit de la diversité d'opinions. C'est une réalité de cet effet des algorithmes sur notre rapport au monde et sur le filtre qui nous sépare de lui.
Alors, je voudrais quand même d'abord dire que ces algorithmes ont une puissance opératoire extrêmement grande. C'est important parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi ils ont pris un empire aussi grand dans le monde contemporain. Je vais prendre un exemple, la reconnaissance des visages. On arrive aujourd'hui avec énormément d'images. La société Google a une petite section qui a un algorithme de reconnaissance des visages qui s'appelle FaceNet et ils l'ont entraîné sur 200 millions d'images. Donc, vous voyez que c'est énorme, plusieurs images par personne, une quinzaine d'images par personne, et ils obtiennent un taux de reconnaissance de 99,63%. Vous voyez, c'est presque les performances d'un homme, peut-être même meilleures, parce qu'on ne reconnaît pas toujours les visages. Donc tout ça pour dire que ça a des performances extraordinaires. Ce sont en même temps des outils qui sont limités. On l'a dit tout à l'heure, et c'est très important, ça ne donne pas de preuves. Ce sont des corrélations. Dans certains cas, pour certaines applications, c'est extrêmement efficace. Ça peut être très utile. Des domaines comme la médecine peuvent en bénéficier. Des domaines scientifiques aussi bénéficient de cela. La science est transformée avec le traitement des grandes masses de données. Je crois que c'est important de le répéter parce qu'il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de ces traitements algorithmiques qui peuvent être extrêmement utiles. Le problème, c'est l'utilisation de ces traitements algorithmiques, en particulier ces traitements prédictifs, parce que j'insiste, c'est ça qui pose problème, dans la vie sociale telle qu'elle existe aujourd'hui. Effectivement, l'une des premières motivations des grandes sociétés de l'Internet pour constituer ces immenses bases de données, c'est qu'ils ont compris deux choses. C'est que d'une part, l'information, c'est quelque chose d'extrêmement impalpable et que la réputation peut se renverser du jour au lendemain. Donc il faut faire une veille permanente de tout ce qui se dit sur Internet. Donc c'était cette première idée qu'il faut exploiter systématiquement toutes les informations et il faut, lorsqu'on conçoit un produit, exploiter ce qu'on appelle les retours d'usage, c'est-à-dire savoir comment les gens apprécient ce que vous faites et donc il faut stocker tous ces discours pour les utiliser. Et puis la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on est dans des sociétés où on a trop de choix. Pendant longtemps, le début de la société de consommation, il y avait un modèle pour tout le monde. Et on était content parce qu'on n'avait rien, donc un modèle, c'était formidable. Et aujourd'hui, on veut faire un modèle pour chacun. On vous donne l'information en fonction de ce que vous aimez. Bien sûr, pour faire ça, eh ben, il faut savoir qu'est-ce que vous aimez. Et donc, on va profiler chaque individu. Et c'est ça le filtrage dont on parle tout à l'heure. Et bien sûr, le risque, c'est un jour de ne plus avoir d'informations. Moi, je suis d'une génération, quand j'étais petit, on avait, à la télé, il y avait une chaîne. C'était l'ORTF. Alors, c'était un peu triste, c'était un peu gris. Hein, et le matin, à l'école, hein, on parlait de ce qu'il y avait eu à la télé. Puis aujourd'hui, ensuite, il y a eu 20 chaînes. Maintenant, il y a 500 chaînes. Il y a même des milliers de chaînes sur Internet. Et donc, personne n'a la même information. Et donc, c'est effectivement ce qui risque de se produire aujourd'hui, c'est que ces outils de profilage vont segmenter la population et donc nous aurons chacun une réalité différente du monde.
Mais le paradoxe, l'injonction paradoxale un peu de ça, c'est que l'information, l'accès aux sources d'information aujourd'hui, c'est une profusion. Nous pouvons nous informer par des milliers de différents moyens, par Internet, bref. Or, petit à petit, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous nous faisons enfermer dans des bulles informatives desquelles nous avons de plus en plus de mal à sortir. Il y a un paradoxe là-dedans, Benjamin Bayard.
Alors, oui et non. D'abord, il faut comprendre que le phénomène n'est pas nouveau. C'est un principe qui est lié à l'idée de rémunérer du contenu à l'audience. C'est donc typiquement ce que fait la publicité. La chaîne de télévision qui gagne de l'argent en faisant de l'audience parce qu'elle fait de la publicité sur... et que donc plus il y a de gens qui regardent, mieux elle est payée, cherche à vous fournir ce qui vous plaît pour que vous regardiez. Et donc ça crée une espèce de boucle où si le contenu est mauvais mais fait plus d'audience, on fait du mauvais contenu. Si le contenu est bon et fait plus d'audience, on fait du bon contenu. Qu'importe. On cherche cette boucle de contre-réaction, ce mécanisme qui permet de présenter à chaque public ce que le public souhaite voir, ou plus exactement, ce qui fera de l'audience. Parce qu'il y a beaucoup de moments où on regarde des choses qu'on ne souhaite pas voir. Moi, je ne souhaitais pas particulièrement voir tel ou tel épisode guerrier dans les journaux télévisés, mais il n'empêche que quand c'est passé, je les ai regardés. C'était pas un souhait, mais j'ai regardé. Et donc, ça, c'est cette espèce de couplage avec trois grands volets. Le revenu publicitaire qui fait qu'on cherche à faire de l'audience, les entreprises hyper centralisées sur les réseaux, typiquement Facebook, Twitter, et le fait que ces entreprises détiennent énormément de données sur vous. Ça fait que chacun de ces réseaux, plutôt que de vous présenter du contenu tel qu'il vient, c'est-à-dire spontanément, Facebook devrait vous présenter toutes les infos publiées par vos amis dans l'ordre antéchronologique, les infos les plus récentes en premier, et puis les infos un peu anciennes plus bas. Et en fait... Ça donne quelque chose où les infos peuvent être intéressantes ou pas, et donc si c'est pas intéressant, vous allez passer à autre chose et vous allez cesser de regarder la publicité. Or, ce qu'ils veulent, c'est que vous regardiez la publicité, et donc ils cherchent à vous présenter ce qui fait que vous restez. Et cette espèce de construction à trois, et qui boucle entre publicité, hyper-centralisation et détention des données sur vous, fabrique une tendance à toujours vous présenter ce qui fait que vous restez. Soit parce que vous trouvez le contenu scandaleux et que vous voulez absolument regarder ce que c'est, soit parce que vous trouvez le contenu réconfortant et que vous avez besoin de réconfort parce que ça fait du bien. Et ça crée une mécanique dans laquelle vous vous enfermez. Mais c'est en fait exactement la même mécanique d'enfermement que celle que je connais chez les journalistes parisiens, qui discutent tous entre eux en permanence, même quand ils sont pas dans le même canard, qui se racontent les mêmes histoires qui leur font se sentir bien et qui leur évitent de voir que le monde ne leur ressemble pas, et où ils restent entre eux dans leur petite bulle parce qu'elle est confortable. Et ben c'est exactement la même chose, mais pour tout le monde. Chacun reste dans sa petite bulle parce qu'elle présente un certain confort et n'en sort que parfois, n'en sort que à certains moments. Et cette espèce de phénomène d'enfermement statistique, effectivement, il est assez dangereux parce qu'il fait perdre le contact avec le monde. Alors, il faut tout de suite le tempérer. Internet crée plus de contacts avec le monde qu'on n'en a jamais eu. J'ai plus de contacts avec le monde, moi qui suis un enfant d'Internet, que n'en avaient mes parents. J'ai plus de contacts avec des réalités différentes de ma réalité familiale depuis que j'ai Internet. Donc, ça ouvre énormément les esprits. Et ce qui crée cet enfermement, ça n'est pas le réseau informatique, ça n'est pas l'existence du numérique, c'est bien l'existence de plateformes hyper centralisées et qui essayent d'accaparer votre temps de cerveau disponible. C'est exactement la même logique que la logique de la télévision. Et ça a les mêmes effets. Vous êtes autant enfermé par le 13h de Jean-Pierre Pernaut que par votre timeline Twitter ou Facebook.
Sur ces bulles de filtre que vient de décrire brillamment Benjamin Bayard, je vais me faire l'avocat du diable, Antoinette Rouvroy. Finalement, pourquoi est-ce qu'on reprocherait à des algorithmes et à des outils informatiques de nous mettre en relation avec des opinions avec lesquelles on est d'accord ? Finalement, moi-même, je suis plus spontanément ami avec des gens qui partagent dans les grandes lignes mes opinions, mes goûts, mes intérêts, que des gens qui sont radicalement opposés à moi et qui ont des opinions qui me heurtent, avec lesquelles je ne suis pas d'accord et qui me fâchent. Donc, pourquoi il y a un problème d'amplification de ce phénomène-là ? Est-ce qu'on n'en a pas fait trop, finalement ? Est-ce que ce n'est pas juste la continuation des affinités électives ?
Alors, tout d'abord, je voudrais dire un peu en préambule que s'il y a des bulles filtres, c'est que nous sommes prévisibles. Et nous sommes prévisibles parce que nous avons des comportements relativement réguliers.
Donc,
nous sommes grégaires. Donc, nous sommes facilement enfermables dans des bulles parce que nous sommes grégaires. Ce ne sont pas les algorithmes qu'il faut mettre en cause, mais peut-être notre propre esprit grégaire, ne pas tellement vouloir la nouveauté, etc. On pourrait très bien, d'ailleurs, utiliser les algorithmes pour nous exposer précisément à bien d'autres choses que celles auxquelles on s'attend. C'est une question de paramétrage. On pourrait se servir des algorithmes pour faire exploser nos bulles, pour faire exploser nos bulles filtres. Évidemment, ça ne rencontrerait pas nécessairement les intérêts des marketeurs, etc. Donc ça, c'est une question d'intérêt et de paramétrage. Ce pourquoi c'est problématique, cette question des bulles filtres, c'est que ça nous prive en quelque sorte, si ça se répand ou si ça s'intensifie de trop, c'est que ça nous prive d'un espace public. Qu'est-ce qu'un espace public ? L'espace public, c'est précisément un espace dans lequel nous sommes chacun confrontés à des choses qui n'ont pas été prévues pour nous, à des choses dont nous devons discuter collectivement et qui sont irréductibles à la seule concurrence des petits intérêts individuels. Et donc, ce dont nous prive finalement ce que j'ai appelé avec mes collègues de Bruxelles et de Namur la gouvernementalité algorithmique, ce dont ça nous prive, ça, eh bien, c'est de l'espace public. On se focalise assez souvent sur les enjeux de protection de la sphère privée, de la vie privée, etc. Mais ce à quoi on assiste, c'est à une hyper-privatisation avec un assèchement assez dramatique de l'espace public. On le voit, par exemple, dans les utilisations contemporaines des big data et des algorithmes dans le cadre des campagnes électorales.
On va y venir,
voilà, d'ailleurs. On y reviendra, mais c'est un exemple assez frappant de cette privatisation où, finalement, la campagne électorale en vient à consister uniquement à prendre le pouls de la population, mais non pas en tant que population, mais en tant que juxtaposition d'individus séparés ayant des intérêts séparés, qui ne sont plus transcendés par aucun programme collectif. Or, faire de la politique, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas simplement se faire le sismographe des états d'âme de la population, c'est proposer un projet qui transcende l'état de fait, qui en sorte, il n'y a de politique que contrefactuelle. La politique, ce n'est pas l'optimisation d'un état de fait, c'est exactement l'inverse. C'est sortir de l'état de fait, proposer quelque chose qui nous amène ailleurs, du radicalement neuf. Et donc, l'enjeu de ces bulles filtres et de cette gouvernementalité algorithmique, c'est effectivement, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu, l'enjeu est celui de la disparition de l'espace public par gavage, par anticipation des pulsions et des désirs des individus. Un individu qui est gavé n'a plus de désir et n'a plus rien à demander à son voisin et encore moins à la collectivité et encore moins à la politique.
C'était absolument, absolument brillant. On va reparler dans quelques instants de l'influence précisément et de l'utilisation qui, pour le coup, elle peut être non pas malveillante, mais en tout cas, disons, perverse un peu de ces algorithmes dans le champ politique. J'aimerais qu'on dise quelque chose parce qu'il me semble que c'est important. On a parlé des réseaux sociaux, même si encore beaucoup de personnes ignorent que les résultats qui sont présentés sur leur timeline, sur Facebook, sur Twitter, sont filtrés, qu'ils ne représentent pas la réalité, la diversité, que beaucoup de gens prennent ces réseaux sociaux pour des sources d'informations à part entière, en ne les distinguant plus d'autres formes d'informations plus pérennes ou en tout cas plus officielles. J'aimerais qu'on parle de ce que j'appelais tout à l'heure le SEM, enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est le Search Engine Manipulation Effect, l'effet de manipulation du moteur de recherche. en rappelant peut-être pour commencer que Google aujourd'hui est le moteur de recherche qui est employé par 70% de la population aux États-Unis, 90% en Europe, donc c'est un emploi massif. On peut attendre spontanément, intuitivement d'un moteur de recherche qu'il présente des résultats de façon neutre, qu'il ne soit pas gouverné par un filtre. Ça n'est pas le cas. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous avez des comptes Google ou Gmail. Donc quand vous vous connectez à Google, vous avez un profil. Donc les résultats vont être subtilement orientés. Et là, il y a un effet de distorsion qui est un effet de distorsion qui me semble très pervers. Dans l'ordre de présentation des résultats et dans l'influence de la présentation et de cet ordre de présentation sur les comportements et sur les opinions. Jean-Gabriel Ganassia, aujourd'hui, cet effet de manipulation est un effet très insidieux qui mobilise énormément d'argent de la part des multinationales pour optimiser la présentation de leurs résultats et qui, pour le coup, est un vrai effet de distorsion dans notre rapport au réel.
Oui, ça reprend un peu ce que j'ai exposé tout à l'heure hein, sur le fait que c'est une société dans laquelle notre désir, nous n'avons plus de désir, donc il faut susciter le désir. Hein, et pour ça, eh ben, on va s'adapter à chacun. Donc c'est l'idée qu'on va profiler, c'est-à-dire qu'effectivement on va se demander, chacun d'entre vous, quels peuvent être ces désirs. Et pour ça, eh ben, on vous demande qu'est-ce que vous aimez, ce qu'on appelle les likes, hein, et puis on regarde qu'est-ce que vous avez choisi, hein, qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps, quelles sont les requêtes que vous avez posées au moteur de recherche. Et ça, ça va rapporter énormément, parce qu'au lieu d'avoir une publicité pour tout le monde qui n'atteindra pas sa cible, parce qu'il n'y a plus de best-seller, eh ben on aura des petits segments. C'est extrêmement utile. Et bien sûr, on se retrouve dans cette société qui devient totalement éclatée. Alors, je pense qu'il est temps aussi de dire une chose qui est importante, c'est que pendant longtemps, le danger qu'il y avait avec l'information, c'était qu'on gomme l'information. Les puissants, c'était ceux qui surveillaient, c'est-à-dire qui avaient le pouvoir de prendre l'information, ils étaient au-dessus, et en même temps de diffuser l'information. C'était le stalinisme, c'était le caviardage. Et aujourd'hui, hein, j'ai introduit un terme hein, que j'ai repris d'un technologue américain, Steve Mann, hein, il parle du terme de sous-veillance. Hein, c'est-à-dire que avec les technologies actuelles, tout le monde peut prendre l'information, et on a affaire à une profusion d'informations. Et le problème, c'est pas tant pour avoir du pouvoir de disposer de l'information, parce que tout le monde dispose de l'information, on a une overdose d'informations, hein, si on peut s'exprimer ainsi, mais en revanche, c'est d'arriver à se montrer, à être vu. Et alors, bien sûr, pour ça, eh bien, on va déployer tout un tas de trésors d'ingéniosité, parce que la ressource rare aujourd'hui, ça n'est plus l'information, c'est l'attention. Et bien sûr, ce que l'on va faire, c'est essayer de vous distraire par tous les moyens du monde et essayer de vous donner quelque chose qui va vous plaire immédiatement et donc en vous plaisant effectivement, qui va vous distraire et ne pas vous permettre de vous concentrer sur les problèmes centraux. Et je suis d'accord avec ce que dit Antoinette, hein, le grand problème aujourd'hui pour la politique, c'est un espace public, un espace commun avec un véritable échange. Et tout est fait aujourd'hui, pour des raisons marchandes, pour nous distraire de cet espace commun qui est celui du politique. Mais bien sûr, c'est une logique qui est complètement différente de celle qui existait auparavant. Alors souvent, hein, quand on a ces nouvelles technologies, les gens écarquillent les œufs, ils disent Orwell, Big Brother. Mais non, moi je pense que 1984 est définitivement derrière nous. Hein. Le monde qui vient est un monde différent. Et si on veut l'aborder, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur de l'histoire.
Néanmoins, ce qui est assez intéressant, puisque vous évoquez Orwell, c'est que quelqu'un, un auteur, un grand auteur de science-fiction, avait prévu un peu ça. Hein. C'est Asimov, la psycho-histoire de Asimov, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Ah, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Benjamin. La psychohistoire d'Asimov dans Fondation, ça ressemble beaucoup à la démocratie des algorithmes, non ?
Oui, pas complètement. Ce qu'en fait Asimov est très particulier. Mais oui, il y a l'idée que le monde soit prédictible dans la psychohistoire d'Asimov, qui est une idée qui n'a pas de sens. Et où, quand on lit Fondation, on se rend compte que très rapidement, en fait, la prévision est pipeau et elle ne sert à rien. Et qu'en fait, il y a besoin qu'il y ait une prédiction pour qu'on puisse avancer, même si la prédiction est fausse.
Oui, parce qu'il n'y a pas loin de la réalité. Donc, pour revenir sur, en quelques mots quand même, sur cet effet de manipulation du moteur de recherche. Jean Gribel Ganassia, vous le disiez, on déploie des trésors au sens propre du terme. Hein. 20 milliards de dollars sont dépensés par les films américains pour arriver dans les premières positions, pour sortir en tête de classement. Ça a été étudié par des chercheurs pour les effets, puisque nous sommes dans l'année électorale politique. Ça s'appelle le VMP, le Vote Manipulation Power. C'est tout à fait documenté. Et aujourd'hui, ça a un effet. Donc, ce vers quoi je voudrais arriver, c'est est-ce que cette démocratie des algorithmes est en train, finalement, de se transformer en une forme de totalitarisme numérique, de démocrature, comme on peut dire aujourd'hui, numérique.
L'effet de manipulation politique, dans le sens où on va pouvoir faire voter pour un candidat ou pour un autre, j'ai une opinion très modérée là-dessus. Il y a des phénomènes plus dangereux sous-jacents qui relèvent de la manipulation ou bien de la personne au sens individu ou bien du corps social. Le fait de supprimer l'espace public, par exemple, dans lequel on se retrouve confronté à des gens qu'on ne s'attendait pas à rencontrer, même si on n'apprend pas forcément grand-chose en le faisant, ça nous force à être des êtres sociaux et pas seulement dans notre petit groupe. Ça a un effet sur les structures de la société qui me paraît plus puissant que le fait de savoir si le moteur de recherche est capable de me faire préférer tel candidat mièvre à tel autre candidat mièvre qui propose à peu près la même chose. La vraie question sur la manipulation de l'individu, c'est l'effet connu de la surveillance. Pour le coup, on sait depuis plusieurs décennies, et ça a été longuement documenté quand on a réussi à faire tomber les totalitarismes en Europe, la surveillance de la population induit un changement dans les modes de pensée qui ressemble un peu à de la paranoïa, et où le fait que la population se sache surveiller et se sache observer induit des changements de comportement intimes. C'est-à-dire, c'est pas simplement je vais pas m'opposer bruyamment dans la rue au dictateur du coin pour pas finir en prison, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est je vais m'interdire certains schémas de pensée parce que si jamais je les disais à haute voix, je me mettrais en danger parce que je ne sais pas qui m'observe quand et pourquoi. Donc quand on se sait ou quand on se sent observé, on est intimement modifié. Et ça crée une espèce de paranoïa. Et à l'heure actuelle, on sent ça, par exemple, les publicitaires s'en sont rendus compte, quand on fait des publicités trop ciblées, trop bien ciblées, les gens ne cliquent plus dessus, et ils ont un espèce de rejet, parce que c'est louche, quoi. Et du coup, ils cliquent plus dessus. Et donc, quand on fait de la publicité de nos jours, de la publicité ciblée, il y a 15 à 20% de contenu véritablement ciblé et il y a à peu près 80% de contenu publicitaire dont on fait exprès qu'il ne vous ressemble pas parce que c'est ça qui fait que vous acceptez les 15% qui vous sont destinés. Donc c'est encore plus ciblé. Et ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'on absorbe et on est modifié et d'une manière qui nous rend craintif. Et où on fait en sorte de distiller suffisamment le poison pour qu'on accepte de l'absorber et que l'aspect craintif ne ressurgisse pas de manière violente. Ça veut quand même dire qu'on nous a... quand je parlais de toxicité tout à l'heure, je parlais de ça. Il y a quand même cet effet toxique. Et moi, j'ai bien plus peur politiquement de ces deux phénomènes. De l'un qui nous prive de l'espace public et qui nous prive de la chose politique, au sens « parlons donc ensemble de la société que nous voulons ». Et l'autre qui crée des individus paranoïaques, très craintifs, et tellement craintifs qu'ils ont peur de voir leur crainte affichée. C'est quelque chose de très dangereux. Et c'est une des raisons pour lesquelles tout ce qui relève de la surveillance, qu'elle soit faite par les États, ce qui est courant, ou qu'elle soit faite par les grandes plateformes, crée un problème. Le simple fait qu'il existe une collecte de données sur vous, et qu'à partir de cette collecte de données, on vous propose des contenus, fait que, inconsciemment, dans le fond de la tête, on se sent manipulé. Et ça, c'est très dommageable à l'individu, tout comme la disparition de l'espace public et la privation de la chose politique est très dommageable à la société. Et moi, j'ai beaucoup plus peur de ça comme manipulation de l'électorat, qui nous fait nous diriger vers des sociétés folles, et où le totalitarisme devient acceptable, et où le rejet de l'autre devient acceptable, puisque l'autre, de toute façon, je ne le vois pas dans ma bulle d'information. Ça me fait beaucoup plus peur comme manipulation que la manipulation par l'algorithme. Je crois pas que le fait qu'un moteur de recherche me propose plutôt des informations sur tel candidat que sur tel autre fasse beaucoup bouger mon vote.
Antoinette Rouvroy, c'est ce que vient de décrire Benjamin Bayard et puis ce que disait Jean-Gabriel Ganassi à l'instant, c'est-à-dire qu'on a abdiqué le spectre de la société de surveillance totalitaire de George Orwell, qu'aujourd'hui c'est une société de la méfiance qui est en train d'instaurer cette démocratie des algorithmes livrée donc à des groupes privés. Ces groupes privés, ils ont l'ambition, parfois même non dissimulé, de se substituer d'une certaine façon aux puissances étatiques, aux États. C'est de ça dont il faut se méfier.
Mon abord de cette question m'envoie dans une direction assez paradoxale. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut craindre une forme de conformisme anticipatif qui sera d'autant plus fort qu'effectivement, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire être suffisamment normal dans une société où la norme, c'est-à-dire le profil d'absence de risque, etc., le profil idéal, il bouge en temps réel. Hein, on ne sait pas, si vous voulez, la norme s'échappe, au plus on s'approche d'elle, au plus elle glisse comme un savon. On n'est jamais assez normal. Donc ce que ça peut générer, effectivement, c'est soit une sorte de paranoïa, soit une forme de normopathie, hein, une maladie de la norme. Voilà, on fait du quantified self et on n'a jamais assez couru assez longtemps pour devenir vraiment quelqu'un en bonne santé qui va ne pas risquer de perdre son assurance à terme, etc. Donc effectivement, c'est un enjeu. En même temps, j'ai le sentiment assez profond que nous n'avons jamais été peut-être moins visibles aujourd'hui dans ce qui compte pour nous. C'est-à-dire que, effectivement, nous nous exposons presque volontairement. Certains vont qualifier ça de narcissisme, etc. Nous exposons sur les réseaux sociaux, y compris dans les dimensions les plus privées de notre existence, les plus intimes. Mais moi, j'interprète ça non pas comme de l'exhibitionnisme, mais plutôt comme le symptôme de notre disparition dans l'espace public, et nous nous consolons de notre disparition dans l'espace public, de notre insignifiance, en tentant dans ce nouvel espace semi-privé public, je ne sais plus comment le qualifier, cet espace autre qu'est l'Internet, que sont les réseaux sociaux, nous essayons ainsi de nous éditer en tant que personne. Et c'est une édition de soi continue, amniotique, qui nous réconforte, dans laquelle nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, qui nous confirment que nous existons. Nous existons publiquement, même s'il n'y a plus d'espace public. Vous voyez, c'est très proche de ce que Walter Benjamin décrivait à propos des intérieurs bourgeois du 19e siècle. Il disait, le bourgeois, en fait, n'existe plus dans l'espace public. Et donc, il se console en farcissant son intérieur de coussins molletonnés, de coussins avec du velours qui garde la forme de ses fesses, avec de tas de bibelots, tous les souvenirs de voyage dont il remplit son intérieur, etc. Ce besoin existait, il n'a peut-être jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, et donc voilà, nous nous exposons, en même temps nous sommes peut-être dans certains cas dans une forme de conformisme anticipatif. Je voulais juste ajouter quelque chose à propos des biais. On voudrait que les algorithmes soient non biaisés, mais vous savez, s'il n'y a pas de biais, il n'y a pas de connaissance possible. Les biais sont, nous avons tous des biais, et c'est à travers nos propres biais que nous apprenons. Quand on parle de machine learning, d'apprentissage des machines, lorsque les machines deviennent intelligentes, elles apprennent en acquérant des biais. Les biais, ils s'acquièrent par l'expérience. Donc, plus les machines fonctionnent, plus elles vont acquérir de biais. Voyez, alors l'idée qu'on aurait une absence de biais, c'est une idée dont on doit se défaire, parce que c'est une idée qui supposerait qu'il est possible d'avoir un accès immédiat au réel lui-même, sans en passer par aucune représentation. Et je pense que cette fascination pour le réel, cette obsession pour le réel, qui est aussi une obsession du temps réel, une obsession du réel, qui est symptomatique d'une crise radicale de toute forme de représentation, je pense que c'est un peu ça qui nous tue. On peut voir le big data, le monde des big data, comme un système immunitaire d'une réalité calculable contre l'incalculabilité de la vie, c'est-à-dire l'incalculabilité du vivant qui est affecté par de l'altération. Et je pense que ce système immunitaire du calculable contre la vie, c'est précisément, et en même temps que cette tentation de la bulle filtre, ça renvoie précisément à ce que le philosophe Frédéric Nera décrivait comme ce qui tue actuellement nos sociétés. Il disait « nos sociétés meurent actuellement de deux maux. Le premier, c'est la croyance en l'immunité. le fait qu'on serait enfin humain, immunisé contre l'imprévisible. Et le deuxième mot, c'est la programmabilité des conduites, ou la programmation des conduites. Et je pense que si on ne prend pas garde à effectivement entrer dans la pratique des algorithmes et les façonner d'une manière qui nous rende plus sensibles à la diversité, plus intelligents, plutôt que simplement les utiliser ou les laisser utiliser pour optimiser des états de fait insoutenables, alors nous allons dans le mur. Mais nous avons le choix.
Pour conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes, puisque nous avons dressé ce tableau optimiste, engageant de notre futur collectif de la chose publique et de la chose privée, j'aimerais vous demander à tous les trois comment faire, quelle est l'issue, comment individuellement ou collectivement nous échapper de ce village du prisonnier, Jean-Gabriel Ganassia.
Alors, première chose, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Contrairement à ce qu'un certain nombre de grands acteurs de l'Internet laissent entendre avec des déclarations tout à fait tonitruantes, hein, il n'y a pas d'autodétermination de la technologie. Nous sommes libres et nous pouvons prendre notre futur en main. Et ce futur en main, il faut bien le considérer aujourd'hui avec ces algorithmes, avec leur puissance, leurs aspects positifs et en même temps les dangers de ces algorithmes. Et il faut bien comprendre que la condition de mise en œuvre de ces algorithmes prédictifs, ce sont les données, c'est le stockage de ces données. Or aujourd'hui, ce sont des grands acteurs qui disposent de ces données et qui abusent de l'utilisation de ces données. On a parlé tout à l'heure des biais. Par exemple, aux États-Unis, un certain nombre d'assurances fixent les primes en fonction de la prédiction d'accidents. Après tout, on peut se dire que c'est légitime. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des indicateurs. Et parmi ces indicateurs, et c'est là, bien sûr, où les choses sont biaisées, bien sûr, on ne va pas prendre d'indicateur ethnique, mais on va prendre, par exemple, le code postal. Or, vous n'êtes pas responsable de l'endroit où vous habitez. Et même si c'est un bon prédicteur, c'est tout à fait injuste d'utiliser ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il faut que les données, ce ne soient pas seulement les grands acteurs de l'Internet qui les stockent. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une forme de transparence dans les algorithmes pour qu'on sache bien quels sont les critères qui sont utilisés pour faire de l'induction et que l'on puisse le vérifier. Alors c'est quelque chose qui est compliqué, et donc certainement, il faudra mettre en œuvre aujourd'hui, dans la population, des structures qui permettent de faire ça, et éduquer les gens. Nous sommes ici dans une université, je pense que c'est le plus important pour l'avenir, et il faut que tous s'éduquent à la fois au numérique. Alors pour faire, disons, écho à cela, nous avons monté depuis cette année une bilicence lettres et informatique, parce que nous pensons que d'abord les bons informaticiens, s'ils ont une culture littéraire, c'est meilleur, mais aussi que les littéraires, que les humanistes du futur doivent avoir une formation au numérique. Et je pense que s'il y a des perspectives qui nous permettent d'envisager l'avenir d'une façon plus positive, c'est à travers la formation.
Voilà un message que vous délivrez à toute nouvelle génération de native digitale qui va pouvoir en prendre de la graine. Benjamin Bayard, comment sortir du village? Quelle est l'issue?
Je ne crois pas aux issues techniques. Fondamentalement, ce n'est pas un problème technique, toute cette affaire-là, c'est un problème politique. La question derrière est politique, est de savoir est-ce que nous acceptons de vivre dans un monde où on est manipulé par des publicitaires toute notre vie, par des plateformes?
Apparemment pas.
Ou bien est-ce qu'on décide de vivre dans la société que nous avons choisie? Et je crois que la réponse ne peut être que politique, et alors pas politique au sens de la campagne électorale qui est en train de se passer en ce moment et où rien ne se décidera. Je crois à la question centrale de la prise de pouvoir par l'utilisateur. À l'heure actuelle, Facebook détient le pouvoir et vous êtes la marchandise. Et je pense que c'est un rapport qu'il faut inverser. Je crois au fait qu'il faut arrêter de croire à la naïveté de ces outils techniques. Ils ne sont pas naïfs, et s'ils ne servent pas vos intérêts, c'est que vous êtes un utilitaire dans des intérêts tiers. Je crois vraiment que ces questions sont centrales. Je crois que la réponse à ça, c'est une forme de reprise de pouvoir par les gens, et c'est le fait de faire réexister une société. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de faire disparaître ces grandes plateformes. Et c'est une question politique.
Antoinette Rouvroy, le mot de la fin, l'issue, le panneau de sortie du village du prisonnier, c'est laquelle ?
Alors, je ne sais pas si on parviendra à faire disparaître ces grandes plateformes, mais en tout cas, bon, moi je suis juriste, donc j'en reviens à ma chapelle. Je pense qu'à travers, par exemple, le droit de la concurrence, le droit de la concurrence nous offre des outils qui pourraient justifier et renforcer des principes de protection des données à caractère personnel, qui sont notamment le principe de limitation dans le temps de la conservation des données et le principe, voilà, de minimisation des données. Pourquoi ? Parce que si on lâche ce principe en disant mais non, mais c'est contraire à l'idée même des big data que d'effacer les données. Le big data demande qu'on garde tout et puis qu'on voit plus tard ce qui sera utile. Non, mais si on lâche là-dessus, ça veut dire qu'on favorise les plus gros acteurs de l'Internet, ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Parce que pour pouvoir développer de l'intelligence artificielle, faire du machine learning, développer des algorithmes, il faut avoir des grands jeux de données. Et les universités ne les ont pas. Et les gouvernements ne les ont pas. Ce sont ces acteurs-là qui les ont. Si on leur permet de garder tous ces grands stocks de données, on empêche tous les nouveaux entrants. Donc toutes les initiatives qui voudraient faire autre chose avec ces données que de l'optimisation de l'état de fait, par exemple, hein, ou de la prédation sur ces nouveaux espaces spéculatifs qui sont des opportunités et des risques que détectent et que font exister les algorithmes. Donc ça, c'est une première piste. Deuxième piste, lorsque on parle de décisions prises sur base de traitement automatisé de données à caractère personnel. En bref, lorsque les algorithmes décident pour votre patron si vous allez avoir une promotion ou non. Eh bien non, on ne peut pas dire simplement j'ai un algorithme transparent et objectif et donc voilà, vous n'allez pas être promu madame machin truc. Non, non, il faut une justification. Et la justification, elle ne peut jamais consister simplement à dire mon algorithme est transparent et mes données je vous les donne. Voilà, c'est transparent. Non, non, il faut justifier eu égard à la situation singulière de chaque personne. Les personnes ne sont pas réductibles à des réseaux de données. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, revaloriser l'énonciation. Moi, j'en fais vraiment le centre de la subjectivité juridique. On a toujours, ici, depuis très longtemps, enfin, ici en Occident, on considère que le centre de gravité du sujet de droit, ce sont ses capacités d'entendement et de volonté. Mais on sait très bien que ça, c'est de la fiction. Nous n'avons jamais été ces êtres rationnels, libres et autonomes, l'unité parfaite du libéralisme. Nous ne l'avons jamais été. Non, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons des capacités d'énonciation. Et c'est la possibilité de dénoncer par nous-mêmes ce qui nous fait agir, au-delà du vrai et du faux, c'est pas la question, y compris par la fabulation, après coup, pour justifier la manière dont finalement nous nous relatons, nous nous relions à ces faits que nous posons sans en avoir réellement la maîtrise. Ça, c'est la chose importante. D'où revalorisation d'espace vraiment hétérotopie, hétérochronique, comme le procès judiciaire, par exemple, où on a l'occasion de rendre compte de soi-même. Enfin, et j'en terminerai par là, revaloriser notre capacité de réticence. Qu'est-ce que c'est que la réticence ? C'est cette capacité que nous avons de ne pas faire tout ce dont nous sommes capables. Parce que tout ce dont nous sommes capables, les algorithmes peuvent le détecter. Les algorithmes sont capables de détecter que je pourrais bien vouloir acheter une brioche au chocolat dans un quart d'heure. Mais moi, je suis capable de résister à cette pulsion. Je suis capable de résister à cette pulsion.
L'êtes-vous, vraiment ?
Voilà, résistons.
C'est bientôt l'heure du goûter.
Ne résistons pas, soyons réticents. Et faisons reconnaître, y compris par le droit, il faut voir comment, hein, faisons reconnaître que cette réticence, cette capacité de ne pas faire tout ce dont nous sommes capables, elle a besoin d'être protégée. Car elle est précisément ce qui nous permet de bifurquer et de changer de voie et de relancer les dés. Je vous remercie.
Soyons réticents, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Antoinette Rouvroy, Benjamin Bayard, Jean-Gabriel Ganassia, merci, c'était passionnant. Voilà, c'était la troisième table ronde enregistrée samedi dernier, le 25 février, en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, dans le cadre du forum L'année vue par les sciences. Mille merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation. et aux moyens techniques Andreas Jaffre, Michel Gassic, Gilles Manet, Sébastien Huel et Jean-Michel Le Breton. Demain, nous parlerons de politique et de recherche en cette année électorale et compte tenu des mouvements en politique aux États-Unis. Politique et recherche, est-ce l'équation impossible ?